bienvenue à l'écoute de votre émission interactive quotidienne, à votre avis. Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette aventure. La question du jour est quelles sont les formes d'esclavage les plus courantes aujourd'hui? Comment lutter contre ce fléau? Donc c'est la question que nous avons posée sur le Facebook de VOA Afrique et à laquelle nous allons continuer de répondre, notamment en vous appelant par téléphone. Alors, sachez aussi que vous pouvez nous appeler au 001 202 205 26 33 si vous souhaitez participer à cette émission. Alors, on va parler donc des formes contemporaines d'esclavage avec un petit rappel, rappel sur les lois. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des personnes sont interdits sous toutes leurs formes. Alors l'interdiction de l'esclavage est inscrite également dans la Convention européenne des droits de l'homme, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, la Convention de Genève notamment de 1926, de New York 1956, de l'Organisation internationale du travail 1930-1936. Alors tout ça, c'est sur le papier, mais nous allons essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'en est-il de la réalité. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Nous avons Louis Mutenga de la RDC. Louis, comment ça va?
Oui, ça va bien, ça va bien. En tout cas, nous remercions les auditeurs chéris de la VOA. Mais nous voulons aussi intervenir en disant que l'esclavage, en tout cas, a pris d'autres formes actuellement. Il y a aussi le problème de l'exploitation sexuelle des jeunes mineurs. Nous voyons cela dans de grandes générations. Aujourd'hui, ça commence à quitter des milieux rurales vers les villes urbaines où les filles sont obligées de mener une sexe pour pouvoir trouver à manger chaque jour. Donc, c'est un phénomène qui doit être condamné comme toutes les autres formes d'exploitation, puisque les conséquences sont de plus en plus désastreuses. C'est pourquoi nous intervenons aussi en donnant ce point de vue pour que cela puisse être pris en compte par les filles.
Louis, vous êtes donc en RDC et vous dites dans votre message en fait que certains parents eux-mêmes exploitent leurs filles. Vous dites la crise socio-économique a transformé le sexe des jeunes filles en boutique pour assurer leur survie. Et vous donc vous pointez du doigt notamment les parents.
Donc, les parents sont devenus incapables de pouvoir assurer l'éducation des enfants. Étant donné qu'ils n'ont plus de moyens, ils ne travaillent pas, c'est ainsi que c'est difficile que les parents puissent avoir l'autorité, puissent avoir l'autorité sur les enfants et éduquer éventuellement les enfants. Donc, il y a beaucoup de problèmes tout autour des parents et des enfants. On ne sait pas qui va protéger qui. Le fait que les parents ne sont pas mieux outillés, n'ont pas de moyens, c'est à ce moment-là qu'il est difficile de contrôler et les enfants sont dans la rue.
Ouais. Et Louis, vous êtes dans quelle région en RDC?
Oui, je suis dans la province du Haut-Lomami.
Et est-ce que dans votre région, est-ce que dans votre province, dans votre ville, vous rencontrez ce phénomène est assez courant?
Oui, c'est un phénomène qui est assez courant. Ils ont pu faire des plaidoyers auprès des organisations des Nations Unies pour que ces déplacements et trafics d'enfants, donc à des fins sexuelles, mais qui se passe de dérouler dans notre province. Il y a actuellement les enfants qui quittent les zones, qui quittent les zones rurales pour aller s'implanter dans les zones urbaines, là où il y a des carrés miniers, là où il y a l'exploitation des minéraux, c'est là où les enfants vont aller faire leur trafic sexuel.
Merci beaucoup Louis pour votre témoignage. Je crois que nous avons un autre auditeur en ligne. Moi, si c'est.
Oui, bonsoir.
Comment ça va?
Oui, ça va, Nathalie, vous allez bien?
Ça va très bien, on vous écoute.
Ok, je disais qu'il y a plusieurs formes d'esclavage. Vous savez, la définition de l'esclavage, ça peut les avis divergent selon les définitions. Parce que nous, au nord du Mali, nous vivons une forme d'esclavage. Actuellement même, que c'est l'État malien même qui l'a imposé. Quand on sait qu'il y a une ethnie majoritaire, sédentaire, qui sont au nord là-bas, qui se réclament du nord plus que les autres, et quand on se permet d'installer des autorités intérimaires avec une minorité de peaux blanches qui vont instaurer un système féodal au XXIe siècle, mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. C'est ce qui se passe au nord du Mali. Maintenant, si on voit ailleurs aussi, on voit que les pays africains aujourd'hui, c'est comme si c'est des gouverneurs négligents. Ils ne font que le béni, oui. Madame, vous allez voir comment ces béquillards vont s'accroupir devant M. Macron. Vous allez le voir tout à l'heure. Les Africains aujourd'hui n'ont plus de décision. Tout est venu de l'Occident. Tout est dicté de l'Occident. Tout, c'est la mer, le barycentre, comme on dit en science, et bien les autres ne font que se converger vers ce centre-là. C'est l'esclavage aussi. Mais il suffit que les uns et les autres se ressaisissent, parce que quand on parle de démocratie, il faut que leur brille pour tout le monde, en fait.
Alors, voilà, vous êtes donc au Mali, vous avez parlé votre point de vue, vous avez donné votre point de vue sur la situation dans le nord du Mali. Alors vous parlez comme d'autres certains autres auditeurs Facebookers ont commenté, ont notamment parlé, on va parler de comme on parle du néocolonialisme, certains ont prononcé le terme de néo-esclavagisme. Alors donc merci beaucoup moi si c'est pour votre point de vue sur cette question. Est-ce que nous avons Élie Color en ligne.
Je suis bien là.
Comment ça va?
Ça va très bien ici chez nous, c'est en République démocratique du Congo.
Parfait, on vous écoute.
Ah, si nous parlons, c'est pas encore l'esclavage des enfants. Chez nous, j'ai constaté que manque des moyens des parents, les enfants ne sont pas scolarisés. En effet, on perd l'espoir. L'espoir, on peut accepter qu'il y ait un enfant par d'autres Congolais pour que les parents puissent avoir quelque chose à mettre là-dedans. Pour résoudre ce problème, au moins, je trouve qu'il faut. C'est le gouvernement qui doit commencer par à rendre la scolarité accessible à tout le monde, afin que les parents ne puissent pas faire l'espoir comme ça se fait là. Et je trouve que c'est ce qu'il faut faire vraiment, parce que les enfants n'ont pas de choix, et ensemble avec les parents, pour trouver la solution aux besoins. La situation sociale et économique est tellement compliquée ici, et les enfants passent à l'esclavage ici comme ça.
Mais vous voulez parler de quelqu'un en particulier, parce que bon, on a bien compris, hein, c'est le même propos que notre auditeur de tout à l'heure, Louis, hein, en quelque sorte la pauvreté, les parents sont pauvres, ils n'encadrent plus leurs enfants, les enfants sont livrés justement à l'exploitation sexuelle ou autre. Ceci dit, bon, vous parlez bien entendu de la responsabilité du gouvernement, mais est-ce que vous connaissez des cas autour de vous? Est-ce que vous connaissez par exemple des parents qui ne travaillent pas du tout et qui laissent travailler les enfants à leur place?
Bien sûr, ici au Congo, à l'intérieur du pays, il y a des enfants exploités dans des mines. Vous imaginez, ils travaillent sans matériel et ils exploitent leurs mains. Et tous les minerais comme ça, ils sont exploités, exposés aussi devant, exposés à de graves maladies. Vu cette situation, c'est vraiment très très compliqué.
Merci beaucoup, hein, Élie, pour ce témoignage encore une fois. Hein, les enfants, évidemment, les enfants dans le monde, hein, sont effectivement les premières victimes, hein, de l'esclavage aujourd'hui. Alors, il faut savoir tout de même, si on revient un petit peu dans l'histoire, que l'esclavage a été constamment condamné, hein, depuis l'Antiquité par des autorités morales et politiques Vatican. Bon, il a été plus tard interdit par les déclarations des droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais bon, c'est intéressant de voir aussi que l'abolition de l'esclavage, c'est pas une lutte qui date seulement il y a deux siècles et quelques, mais c'est une lutte bien plus ancienne que cela. Nous avons quelqu'un en ligne. Youssouf Ouedraogo.
Oui, bonjour Nathalie, aux auditeurs, à la rédaction de VOA.
Bonjour Youssouf, comment ça va?
Ça va très bien.
On vous écoute.
Écoutez, on ne va pas répéter les mêmes choses, mais moi je dis que déjà que les parents sont esclaves de la mauvaise gouvernance en Afrique, les enfants représentent une main-d'œuvre essentielle. Cependant, leur exploitation abusive par les parents est tout aussi déplorable que leur non-prise en compte véritable par les systèmes de la politique politicienne des États africains en ce qui concerne, n'est-ce pas, le taux démographique et de développement. Moi, je dis aussi que, Nathalie, aider les enfants, c'est penser à la situation et au bien-être des parents. Alors là aussi, on voit très bien que du concept de l'école obligatoire, à l'exception de certains... de santé, à promouvoir.
Ah, ben Youssouf, excusez-nous, on vous a un petit peu perdu, mais j'ai votre commentaire sous les yeux, donc je vais en profiter pour le citer à votre place. Alors, vous avez écrit déjà que les parents sont esclaves de la mauvaise gouvernance en Afrique. Les enfants en Afrique représentent une main-d'œuvre essentielle, cependant leur exploitation abusive par les parents est tout aussi déplorable que la non-prise en compte véritable par la politique politicienne, ça c'est bien les termes de Youssouf, n'est-ce pas, des États africains en ce qui concerne le taux démographique et de développement. Aider les enfants, c'est penser à la situation des parents. Donc ça, c'est le commentaire de Youssouf Ouedraogo à Yamoussoukro. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? À Djibouti.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va très bien. Moi, en fait, voilà, je voulais intervenir dans ce thème-là. Bon, je crois qu'il y a un recul de la liberté et la pauvreté entraîne également qu'il y a un retour forcé de l'esclavage. Parce que l'esclavage a pris différentes formes aujourd'hui. Nous avons ce qui s'est passé en Libye avec l'immigration, les immigrants clandestins qui voulaient partir et immigrer en Europe, dont on utilise comme une source de désir ou d'esclavage domestique. Et donc c'est un recul qu'on voit actuellement. Alors que dans le XXIe siècle, il y a une redondance et un retour en force de l'esclavage dans le monde et surtout en Afrique.
Mmh. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ce point de vue. Vous pouvez rester avec nous. Il est vrai qu'il y a vraiment différentes formes d'esclavage, hein, encore aujourd'hui. Vous en avez cité un, d'autres auditeurs en ont cité d'autres. Donc le travail forcé, on a parlé des enfants, il y a le travail agricole. Hein. On va parler de la Mauritanie, bien sûr, la Mauritanie, l'esclavage. On peut parler des scandales, hein, dans le domaine du cacao en Côte d'Ivoire, notamment le travail des enfants, le travail domestique, les femmes, les enfants, les filles en particulier, la traite des êtres humains, servitude pour dette. Alors ça, c'est intéressant, effectivement, c'est de nombreuses personnes, voire des enfants, sont dans cette situation. Le mariage forcé est considéré comme une forme d'esclavage, l'exploitation sexuelle par des particuliers ou par les groupes armés, hein, notamment groupe rebelle, groupe islamiste, l'enfant soldat est considéré d'une certaine manière comme une personne victime d'esclavage, le proxénétisme, trafic de personnes et d'organes humains, et les talibés, les petits talibés, là, ces enfants qui mendient, sont aussi considérés comme étant d'une certaine manière des esclaves. Vous venez de parler des migrants en Libye, on se souvient récemment du cas de migrants effectivement qui étaient vendus carrément sur des places publiques en Libye. Et moi-même je peux le dire ici, finalement, une petite anecdote, hein, je me souviens du du Pakistan notamment, où j'étais en 98, hein, passant sur la route, la Nationale 40, hein, dans le Baloutchistan. Et là, j'ai vu plusieurs familles, hein, des petites familles, des femmes, des enfants très petits, casser des cailloux au bord de la route. Et voilà, ils construisaient la Nationale 40. Et à la frontière, un officiel pakistanais avait été d'ailleurs très fier de me dire que cette route était donc subventionnée par l'Union européenne. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne? Amani Yao en Tanzanie.
Oui, bonsoir.
Comment ça va?
Ouais, ça va bien.
On vous écoute.
Ouais, vous savez, pour ce qui est de l'esclavage, il y a plusieurs causes. Hein. Par exemple, en Afrique, la situation politique de certains pays fait à ce que qu'il y ait esclavage. Par exemple, les pays qui sont en guerre, les enfants qui ont perdu leurs parents, ils fouillent dans un autre pays, ils arrivent là, ils n'ont pas à faire, alors ils vont chercher un travail pour se survenir aux besoins. Alors, quand ils sont pris dans telle ou telle autre famille, là, ils sont utilisés comme des esclaves, ils n'ont pas de repos. Vous voyez, nous voyons des enfants qui souffrent, qui travaillent dur parce qu'ils n'ont rien à faire, ils ne savent où aller parce qu'ils ont fait la guerre, leurs parents sont morts, alors c'est là leur cause un peu des problèmes. Il y a aussi un autre problème. Des meilleures vies dans des grandes villes. Quelqu'un qui quitte le village, il arrive dans une grande ville.
On est vraiment désolé, Amani Yao, il est parti, Amani Yao de la Tanzanie, mais on vous a bien entendu. Merci beaucoup pour votre commentaire sur la question. J'ai parlé tout à l'heure de la Mauritanie, effectivement, hein, on connaît bien en Mauritanie, hein, ces militants qui luttent donc pour les droits humains et contre l'esclavage. Alors on rappelle que en dépit de son interdiction officielle en 1980, l'esclavage est une pratique, hein, qui persiste en Mauritanie. Et on rappelle aussi que le Parlement a adopté une loi criminalisant l'esclavage qui punit de 10 ans d'emprisonnement. Normalement, jusqu'ici, pas beaucoup de jugements selon les militants justement des droits de l'homme. Et selon Mike Smith, alors ça c'est intéressant, c'est une autre forme d'esclavage. Selon Mike Smith, le président de la commission d'enquête sur l'Érythrée du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui avait déclaré en juin 2016 qu'il y avait en Érythrée entre 300 000 à 400 000 personnes qui étaient donc considérées selon lui comme des esclaves du fait du service militaire obligatoire et illimité. Hein, il faut savoir effectivement qu'en Érythrée, le service militaire, c'est à vie. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Yougou Wapi du Cameroun.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de Voix d'Afrique et bonjour madame.
Bonjour Yougou, comment ça va?
Oui, je vais bien madame. Comment vous allez-vous?
Ça va très bien, merci, on vous écoute.
Oui, comme je l'ai expliqué dans mon point de vue, écoutez madame, l'esclavage en Afrique vraiment, c'est à plusieurs formes. Moi, je vais prendre le cas de l'Afrique. Je ne pourrais pas parler de certains continents. Je vais reprendre le cas de mon continent, l'Afrique. Mm-hmm. Bon, en Afrique, l'esclavage, d'abord, est sous plusieurs formes en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, notre système politique, vraiment, d'abord, c'est d'abord une forme d'abord d'esclavage, d'abord, pour les peuples, d'abord, d'Afrique. Bon. Et de nos jours, l'esclavage de façon archaïque a disparu. Maintenant, il y a une forme d'esclavage actuellement qui se vit en Afrique encore, qui est le néo-esclavagisme, qui consiste à faire quoi? Que l'Afrique ne peut pas se développer tant que l'Occident n'a pas décidé que l'Afrique doit se développer. Puisque toutes nos matières premières d'abord, prenons d'abord nos cas de nos matières premières sont fixées en Occident. Vous savez aussi comment la plupart de certains pays en Afrique, si leurs monnaies sont fabriquées, en France. C'est la France qui produit leur propre monnaie. Alors que normalement, écoutez, et ce qui est même marrant, écoutez, madame, ce qui est même marrant encore, aujourd'hui nous célébrons une journée vraiment que vous-même vous êtes mieux placé pour le dire, qui se célèbre en France.
Oui.
Au lieu que ça devait être en Afrique,
oui.
Ça devait être en Afrique, normalement.
Mm-hmm.
Mais vraiment, ceux même qui sont en Afrique, je ne sais pas comment est-ce que nos leaders, vraiment, je ne sais pas à quoi est-ce qu'ils réfléchissent vraiment pour ce continent, parce que vraiment, je doute fort vraiment qu'ils puissent avoir un moyen pour que cela puisse être éradiqué dans l'Afrique. Mm-hmm. Ça serait trop difficile pour nous.
Un grand merci, Yougou Wapi, pour votre coup de gueule, votre coup de gueule personnel. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Mamadou Ba, de la Guinée.
Allô, je suis en ligne.
Comment ça va, Mamadou?
Oui, ça va. Selon moi, cette question, l'affaire de l'esclavage au XXIe siècle. Allô?
Vous dites la fin de l'esclavage? J'ai pas bien compris.
Ouais. L'esclavage du XXIe siècle, selon moi, c'est l'incapable toujours de nos présidents africains. Quand on regarde actuellement l'esclavage qui se passe en Libye, vraiment, ça c'est bizarre et c'est stupide.
C'est bizarre et c'est stupide. On comprend bien cela. L'esclavage du 21e siècle, en effet, toujours et encore, il existe encore hein, l'esclavage. Donc vous êtes guinéen, Mamadou, c'est ça? Non?
Oui. Je suis de Guinée,
ouais.
Vraiment.
Vous avez des exemples, je sais pas, des exemples autour de vous de situations que vous pensez qui sont des situations d'esclavage?
Oui, jusqu'à présent, l'existence des Français CFA, ils n'ont pas pu chasser ça. Tout ça, là, cela veut dire que, oui, ils ne sont pas d'abord indépendants.
D'accord. Donc, en fait, Mamadou, vous avez effectivement le même point de vue que Yougou Wapi, qui vient tout juste de nous appeler. Et merci beaucoup, donc, pour votre point de vue. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nous avons Bakary Keïta pour terminer, peut-être.
Oh oui, bonsoir.
Comment ça va, Bakary?
Oh, ça va très bien ici à Bamako avec la canicule.
Avec la canicule, combien de degrés?
Oh, à peu près 40 à 42 degrés.
Ouh là là, vous êtes bien à l'ombre.
Ok, vraiment. Ok, donc c'est un sujet vraiment intéressant. Moi, je crois que l'esclavage existe sous plusieurs formes, quoi. Donc, il y a d'abord le trafic des enfants. Ensuite, ça existe sous une forme de xénophobisme ou bien de racisme, par exemple. Même s'il y a vraiment, on peut même dire vraiment d'une servitude monétaire, par exemple, le franc CFA. Est-ce que vous voyez? Mais quant aux enfants, souvent, le trafic des enfants, ils viennent prendre nos enfants ici pour aller dans les plantations vraiment en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, alors que les enfants constituent vraiment l'avenir du pays. C'est vraiment une forme d'esclavage vraiment accru où on doit vraiment lutter contre ça. Par exemple, c'est nous aussi au Mali également. Il y a certaines races qu'on appelle les xénophobies mais n'acceptent pas assez qu'elles soient mariées vraiment à deux, trois races et traitées quand même des sous-races, par exemple. Ou alors, ça, c'est des trucs qui sont condamnés par l'ONU.
Mmh. Et vous avez des cas particuliers à nous citer éventuellement, vous-même, à Bamako?
Oui, à Bamako, par exemple, j'ai quitté dans une région avant d'être à Bamako, la région des Kayes, par exemple. Il y a des races comme les Aydara, par exemple, n'oseraient pas quand même se marier à des travailleurs ou bien à des Keïta. Souvent, ils nous traitent quand même des esclaves, nous, les Keïta, souvent, nous traitent d'esclaves là-bas, c'est ce que vous voyez. Alors que l'être humain est un. Donc, les droits quand même de l'homme doivent vraiment s'ériger contre cet état de fait. Je voyais. Même en terminant, peut-être même dans les pays de Mandela, à son âme, il existait quand même l'esclavage sous une forme de l'apartheid.
Mmh, mmh. Un grand merci, Bakary Keïta, pour votre témoignage, votre commentaire. Un grand merci à tous nos auditeurs, tous les Facebookers de VOA Afrique. Un grand merci aussi à Joselle Morissin et à Fredner Kayemit à la production. À très bientôt. Au revoir.